C'est sympa de m'inviter à venir prêcher. De quoi? Ah, c'est vrai. C'est trop dur. Vous allez bien? Bon. Alors, ce matin, je vous invite à regarder dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. C'est que deux versets, hein. J'étais gentil. On va faire un peu d'histoire ce matin. Matthieu 10. Est-ce que tu peux lancer aussi la présentation, s'il te plaît? Super, merci. Matthieu 10, versets 7 et 8. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui leur dit ceci. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ou encore, si on regarde dans Luc 10, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça fait court comme prédication. Hein ? Le royaume de Dieu est là. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que vous allez dire. Après, vous allez faire des miracles, mais vous n'allez pas dire plus que ça. Jésus n'envoie pas ses disciples pour leur dire, vous allez expliquer aux gens le système sacrificiel, vous allez expliquer aux gens la rédemption, vous allez expliquer aux gens le péché. Il est beaucoup plus simple que ça. Et il leur demande simplement de parler du royaume et simplement de ressusciter les morts et toutes ces choses-là qui sont banales. Et mon propos ce matin, ce n'est pas tant de parler du surnaturel, mais c'est de parler de la vision que Jésus veut dépeindre du royaume. Parce que pourquoi il veut qu'il parle du royaume ? En même temps, si je vais voir quelqu'un dans la rue et que je lui dis « Christ est mort pour tes péchés, pour le rachat de tes péchés », je ne suis pas sûr qu'il comprenne. Mais si je parle du royaume, je vais partager quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, mais là, Jésus, il est simple parce qu'il parle aux non-croyants. Mais ce n'est même pas le cas, puisqu'ici, il leur dit, vous annoncez le royaume simplement à la maison d'Israël. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il est aussi simple avec les juifs qu'avec les non-juifs. Les pharisiens, c'est notre histoire. Annoncez le royaume, et puis vous guérissez les malades, et vous faites toutes ces choses qui sont super. Mais pourquoi Jésus veut qu'on parle du royaume ? Et je crois que dans le témoignage qu'il veut qu'on donne, et c'est pour ça que je vais faire un parcours biblique ce matin, ce ne sera pas long, ne vous inquiétez pas, je pense que le fait de témoigner ne consiste pas tant à expliquer les sacrifices ou toutes ces choses-là, mais à envisionner. Je ne sais pas si ça se dit, envisionner, donner une vision, partager une vision. Et je crois que ça, c'est la chose qu'il veut que ses disciples fassent, voir le monde selon Dieu. Et on n'envisionne pas les gens en leur expliquant tous les points de doctrine. Alors ça a dû être frustrant pour eux. Dites que le royaume de Dieu s'est approché. Ah non, on a plein de choses à dire, tu dis que ça. Allez, tu te tais et puis par contre, tu fais des miracles. Ça fait super court, mais il est en train de partager une vision du royaume. Et ce qui m'a intéressé, c'est que dans cette simplicité-là qu'on trouve, c'est parfois ce que le monde sait mieux faire que l'Église. Parfois, le monde arrive à partager une vision mieux que nous. Je ne sais pas si on vous présente un nouveau téléphone qui vient de sortir, et si on veut vous le vendre, on ne va pas vous expliquer comment marche le processeur ou tous les composants, mais on va vous dire que si vous achetez ce téléphone, votre vie va changer. Mais vous ne le saviez pas. Mais votre vie va devenir meilleure. Tout va devenir tellement beau avec ce nouveau téléphone. Et on va vous donner une vision dans laquelle vous ne pouvez plus regarder le monde sans ce téléphone. Et quelque part, Jésus arrive avec la vision d'un royaume qu'il veut partager. Et la question, c'est comment Dieu va arriver à envisionner le peuple ? Comment il fait ? Et ce qui m'a frappé, c'est que la façon dont il va envisionner le peuple, c'est exactement la même façon dont Dieu va envisionner Israël dans l'Ancien Testament. Il reprend la même recette. C'est exactement la même chose. Et quand on reprend l'histoire, on se dit, mais c'est un prolongement extraordinaire. Alors, pour illustrer mon propos, je vais partir d'un royaume qu'on connaît bien. La France. La France telle qu'on la connaît aujourd'hui et la France telle qu'on l'exporte aujourd'hui, elle est basée sur une histoire et sur un mythe. Et c'est quoi le mythe français ? Quel est le mythe français ? Si je vous demandais c'est quoi l'histoire de France ? C'est quoi le mythe fondateur, l'acte fondamental de l'histoire de France ? C'est vaste, hein ? Mais la France telle qu'on l'exporte aujourd'hui est basée sur un mythe, une histoire, un acte capital. Ou alors, le fromage, ça marche. Je prends. Fromage et le vin, ça marche. Et ça, ça vient après. Coupe du monde 98. La révolution, exactement. Les droits de l'homme, la révolution. C'est l'histoire d'un peuple qui était opprimé par une dynastie de rois depuis des siècles. Et puis le dernier avec Louis XVI. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors je vais le romancer. On a rassemblé des gens. Il y a un sentiment qui est né, le sentiment d'être un peuple. On a trouvé la force, des ressources. Une vague a pris forme pour reprendre notre destin en main. Alors plus concrètement, on a pris la Bastille. On a libéré les martyrs de la République. On est rentré dans le palais du roi. On l'a amené en place publique et on lui a coupé la tête. Voilà, ça, c'est l'acte fondateur de la nation française telle qu'on l'exporte aujourd'hui, parce que c'était la fin de l'oppression, c'était la fin de la tyrannie, c'était la fin des opprimés, et on en a pondu un texte sacré qui s'appelle Les droits de l'homme. Et au passage, on a, bon, c'est vrai, on a coupé la tête de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce nouveau principe, mais bon, c'est le mythe français, et cette histoire de France. L'égalité, la fraternité, c'est ce qu'on exporte ailleurs. Mais c'est venu de cet acte. On n'exporte pas autre chose. On exporte, c'est avec les droits de l'homme, on se sent investi d'une mission, c'est de sauver la terre entière, et on va dans les pays étrangers pour libérer les peuples. Je ne parle pas des intérêts politiques, je ne rentre pas dans ces sujets-là, mais c'est cette tribune qui est donnée à la France parce qu'elle a une histoire et elle a un acte fondateur. Vous voyez ? Et si on a une tribune dans le monde, quelle qu'elle soit, c'est parce qu'on a pris le roi, on l'a zigouillé, on a repris notre destin en main et maintenant on veut libérer tous les peuples opprimés. Mais pour qu'un royaume arrive à exporter ses valeurs, il faut qu'il revendique une histoire et un acte en particulier. C'est toujours comme ça que ça marche. Et le mythe français, je dis le mythe, c'est de l'histoire, mais c'est le mythe aussi parce qu'il y avait aussi des mauvais côtés, je pense. Mais c'est toujours la légende qu'on crée pour pouvoir s'identifier aux héros de la Révolution, à tous ceux qui ont repris le pouvoir. Et nous, on peut s'identifier à ces héros de la République pour s'inscrire comme un prolongement de ce qui s'est passé. Tout royaume doit revendiquer une histoire. Tout royaume doit revendiquer un acte capital. On a fait tomber le roi, on a repris notre destin, on a pondu un texte sacré, les droits de l'homme, on a une liturgie, la Marseillaise, on le proclame dans nos lois, sur nos pièces, sur les frontaux des écoles, partout. Voilà la fierté française qui s'exporte là où on peut l'exporter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on garde ça en France. Hein. Enfin, on garde même le système de santé, c'est la solidarité, c'est des choses qu'on ne retrouverait pas forcément ailleurs, mais c'est franco-français. Et si on veut exporter les valeurs de la France, comment on fait ? Est-ce qu'on va expliquer aux gens comment marche forcément le gouvernement ? Non, on l'a dit, il y a des choses qui sont meilleures. Il y a du pain, du fromage, par exemple, pour exporter les valeurs de la France. Mais il y a aussi cette histoire-là. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple ? C'est pour dire que quand vous regardez dans l'Ancien Testament comment Dieu envisionne Israël, comment les parents devaient envisionner les enfants sur « Mais Israël, c'est quoi ? Et qui est Dieu ?» Eh bien, il va faire la même chose. Il va revenir à l'histoire et il va revenir à un acte qui va être fondateur. Par exemple, et c'est un passage que je trouve qui est très beau, en Exode 13, c'est le fiston qui demande aux parents, bah, en fait, la Pâque, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi cette histoire ? Et regardez comment Dieu va demander aux parents de donner la vision aux enfants. Et lorsque ton fils te demandera un jour que cela signifie, hein, donc la Pâque, hein, cette délivrance, tu lui répondras « Par sa main puissante, Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, donc il lui explique, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Vous voyez, c'est pareil, il y a une histoire, il y a un Dieu qui a intervenu, il y a eu un acte de délivrance à un moment donné. Et c'est ça que tu diras à tes enfants. C'est comme ça qu'ils vont rentrer dans la vision du Dieu d'Israël. Il y a l'histoire et il y a l'acte qui est capital. Mon fils, ma fille, on a été oppressés depuis des siècles. Dieu, il a dit qu'il viendrait, il a tenu sa promesse, il est venu, il nous a libérés. Et on a marché au milieu de la mer. Et vous voyez, on est au cœur de la transmission de vision dans le peuple d'Israël. Les parents disent aux enfants, on a une histoire à te raconter. Et cette histoire, elle est belle. Et cette histoire, elle est basée sur un acte. Il y a eu une délivrance, il y a eu des promesses. Il y a eu des choses qui se sont accomplies. Et c'est comme ça qu'Israël transmet ses valeurs. La délivrance d'Égypte, c'est un acte auquel ils reviennent tout le temps. Et c'est surtout un acte qui permet de transmettre toutes les valeurs que Dieu a. Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le genre de Dieu qui libère les opprimés. Ils voient un peuple oppressé, il va le libérer. Quand il donne une promesse, il s'y tient. Et voilà qui est le Dieu d'Israël. Et de ce fait, de la même façon, le peuple va devoir lui aussi accueillir l'étranger, témoigner de l'amour autour de lui et aider son prochain. Et on retrouve dans cet acte, on retrouve les préceptes en Israël. Je prends deux exemples, deux versets que j'ai trouvés magnifiques. Ah, je me suis trompé. Psaume 146, 9. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Voilà. Vous avez là la vision du Dieu d'Israël. L'opprimé, je vais le sauver. Mon peuple était opprimé, je l'ai sauvé. Je soutiens, je protège les étrangers, je soutiens l'orphelin et la veuve, et je renverse la voie des méchants. Et il y a un autre verset qui est magnifique dans cette vision-là de Dieu d'Israël, en Ésaïe 1, 23. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Vous avez vu, c'est très héroïque, on a un Dieu héroïque. Il a vu son peuple être dans une situation difficile, il est allé le sauver, il est allé sauver les opprimés. Et de la même façon, Israël fera la même chose, parce que c'est la vision qu'il a reçue. Mon fils, ma fille, il est venu nous sauver. Ben nous, on fait la même chose, parce que c'est ça qui a du sens pour nous. Alors, pour revenir à notre premier verset, Jésus dit, il y a un royaume qui est venu. Et de la même façon, ce royaume est basé sur une histoire qui s'inscrit en prolongement de toute l'histoire d'Israël, le Dieu qui sauve Israël constamment, qui est fidèle à ses promesses. Et on a un Jésus qui vient, et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire exactement la même chose. Il va dire, annoncez le royaume, et vous aussi, vous allez porter assistance aux nécessiteux, aux opprimés, aux faibles. Il garde la même vision qui se prolonge. Et notre royaume est basé sur un acte capital. C'est la croix. La croix, c'est aussi notre histoire. On a soulevé des lièvres intéressants, là. On a renversé la table, parce que la croix, c'est cet acte qui est au cœur de notre royaume. Il en est l'initiateur, et Jésus prend la place du roi. Notre histoire, c'est que Satan avait pris la mauvaise place, Jésus est allé, il s'est interposé entre nous et l'ennemi, il est mort pour nous. Là aussi, on a un acte fondateur, on a une histoire, puis on a un acte. Comme Israël en Égypte, il est venu, il s'est interposé entre nous et l'ennemi, il est mort. C'est le héros de l'histoire. C'est le héros de notre histoire. On en est fiers. Et c'est la vision que dépeint la Bible, le Dieu d'Israël, le même Dieu qui est venu, qui est mort pour nous. La croix, c'est Jésus qui s'interpose entre l'ennemi et nous et qui meurt à notre place. Et la croix est au cœur de ce qu'on va revendiquer. On va l'assumer, on va admirer cette histoire, elle est extraordinaire, et son acte fondateur. Et l'arrivée de Jésus, elle est au cœur de cette histoire, parce que c'est lorsqu'il arrive qu'il dit, voilà, le royaume est arrivé. Mais il arrive au terme d'une histoire qui va s'accomplir, que Dieu a déjà initiée avec Israël et qui se prolonge encore. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est la même histoire qui se prolonge, si vous voulez. Ce n'est pas un autre royaume, c'est la même chose qui a été annoncée, et ce sont les mêmes valeurs qui sont véhiculés. Vous allez défendre les pauvres et les opprimés. C'est toujours la même chose. Dieu, il a fait. Israël devait le faire. Et bien vous allez guérir les malades, vous allez faire la même chose. C'est le prolongement de l'histoire. C'est pour ça que Jésus il dit, vous allez annoncer un royaume, et dans la même vision pour Israël, vous allez guérir les gens, vous allez les aider. Parce que c'est ça notre histoire. Alors là, je parle. J'ai testé cette approche tout récemment. Je me suis dit, est-ce que ça marche de diffuser les valeurs du royaume ? Alors, je vais prendre un exemple. Récemment, j'ai baptisé un de mes grands frères. Et il y avait du monde qui était là, notamment sa belle-famille, qui n'est pas chrétienne. Alors je me suis dit, est-ce que je leur fais un cours sur le salut ou est-ce que je vais les envisionner sur cette histoire-là qui est fabuleuse en fait ? Alors j'ai testé et ça a marché, ça a bien marché. J'ai parlé à mon grand frère qui était devant moi et je lui ai dit, voilà, par ce baptême, maintenant tu souscris aux valeurs d'un autre royaume. Tu abandonnes tes anciennes espérances et tu souscris aux valeurs du royaume de Dieu. Alors j'ai pris plein d'exemples. Par ce baptême, tu t'engages à ne jamais rendre le mal pour le mal, mais à être vainqueur du mal par le bien. Ça, c'est une valeur du royaume. Quand le mal viendra, tu feras le bien et ainsi tu vaincras. Car dans ce royaume, on fait comme ça. Parce que Dieu a toujours fait comme ça dans ce royaume. J'ai pris un autre exemple par ce baptême. Tu t'engages à être un défenseur des causes perdues. Et tu défendras le faible et l'opprimé. Et tu ne refuseras pas la main à celui qui te l'attend. Parce que dans ce royaume, on est toujours du côté du faible. Donc c'est très engageant. Hein, à l'image de ce que fait Dieu, ce qu'a fait Jésus. Un autre exemple, par ce baptême, tu t'engages à bâtir la paix autour de toi, même avec tes ennemis, car dans ce royaume, on aime nos ennemis. On essaye. Mais ça montre un idéal. Dans ce royaume, tu t'engages, si tu es le chef de famille, dans ce royaume, le chef, ce n'est pas celui qui est servi, mais celui qui sert. Donc tu vas fléchir le genou et tu vas servir les autres. Parce que dans ce royaume, ça marche comme ça. Comme Christ, notre chef à tous et notre serviteur à tous. Et parce que toutes ces valeurs-là qu'on peut diffuser aux gens, qu'on peut véhiculer, elles prennent leurs racines dans la délivrance d'Israël, elles prennent leurs racines dans la délivrance de la croix. Et toutes ces valeurs-là, ce qui est extraordinaire, c'est que les non-croyants y souscrivent la plupart du temps. Et une fois que j'avais diffusé toutes ces valeurs-là, il y avait ces beaux-parents qui étaient là, qui ne sont pas chrétiens, ils avaient les larmes aux yeux. Parce que ce royaume, excusez-moi de le dire, il a de la gueule, il est beau. Et toutes ces valeurs qu'on véhicule, elles font écho à l'histoire de la croix, à l'histoire d'Israël. Et c'est pour ça que le discours de Jésus de ce royaume se prolonge complètement avec cet état d'esprit de Dieu, avec Israël, et dans ce prolongement-là. C'est extraordinaire. Quand les disciples ils vont en Galilée, ils toquent aux portes en disant « Le royaume de Dieu s'est approché, on vient vous guérir ». Parce que si vous avez un problème, on vous guérit. Mais c'est qui ce roi qui nous envoie des personnes pour nous guérir ? On a envie de connaître ce roi. Vous voyez l'idée ? On diffuse les valeurs d'un royaume, mais c'est qui ce roi ? Moi, il m'intéresse ce roi. En plus, il est sympa. Puis les foules l'ont suivi. Quand Jésus voit l'opprimé, il ne fait pas un cours de théologie. Il parle du royaume pour leur donner envie d'y souscrire. Quand il voit la samaritaine, la femme adultère, il met en pratique, il assume, il revendique ces valeurs-là. Quand il voit l'opprimé, l'étranger, l'ennemi à qui je tends la main avec noblesse, avec tendresse, avec audace. Quand il voit le malade, il vient défendre sa cause, il vient le guérir. Quand il voit l'opprimé, celui qui est perdu et rejeté, il est alors celui qui va plaider leur cause. C'est ça la vision du royaume, c'est extraordinaire. Jacques le dira comme ceci. La religion pure et sans tache devant notre Dieu et Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Ça, c'est notre Dieu, ça, c'est notre royaume. On va prendre leur cause, on va les défendre, on va les aider. Et ces valeurs-là sont un héritage que Dieu nous laisse, et ces valeurs-là sont à l'avant-garde de notre témoignage. Elles sont vraiment à l'avant-garde de tout ce qu'on veut témoigner. Parce que ça donne envie, les gens ensuite ont envie de se dire, mais ces valeurs-là, moi, j'y souscris vraiment. Et puis, ces valeurs-là nous permettent d'être à l'écoute de l'autre, parce qu'il ne s'agit pas d'aller voir quelqu'un et puis de lui balancer la croix comme ça, mais ces valeurs-là, c'est écouter l'autre, le considérer, lui tendre la main, lui dire « je t'ai écouté, je prie pour toi, comment je peux t'aider ?» Tu sais, mon Dieu, c'est Dieu de la délivrance, il aide toujours le plus faible, l'opprimé, et moi, si je peux faire quelque chose, je le ferai. Et puis même moi, on va m'aider, parce que moi, j'en ai besoin. Mais qui ne souscrirait pas à ces valeurs ? Et j'ai été étonné parce que j'ai fait plusieurs fois ça avec des non-chrétiens qui disent « mais nous, on souscrit à ces valeurs ». Ah, ben, c'est intéressant parce que c'est ça, c'est le christianisme. Ah bon? Ah oui, on peut en parler. J'avais déjà pris cet exemple, mais Amnesty International qui fait signer une pétition dans la rue pour soutenir la cause d'un homosexuel condamné à mort dans un pays qui est aussi la cela. Ah, moi j'aimerais signer la pétition, je suis chrétien, c'est aussi mes valeurs, je soutiens la cause de cet homme qui va être condamné injustement. Ah bon, Edo, parce que vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, oui, voilà, je souscris à ces valeurs. Ah, mais vous, ça vous intéresse? Oui, oui, c'est mes valeurs. Je me montre visible. Moi aussi, je défends cette cause. Je veux me rendre visible. Je ne suis pas enfermé dans mon coin, donc je signe ça. Moi aussi, je veux défendre cette cause-là, parce que mon Dieu, il les défend, ces causes. Et c'est intéressant, parce qu'après, les gens se disent, mais c'est qui le roi de ce royaume? Et puis là, on peut y aller. Mais voilà, la vision est grande, la vision est vaste, mais Dieu est grand. Et j'aimerais donner une deuxième raison pour laquelle véhiculer les valeurs du royaume, c'est percutant et c'est efficace. Parce que vous ne pouvez pas vraiment, on ne peut pas vraiment parler du royaume sans l'incarner. Vous pouvez parler du salut théoriquement, sans vous mouiller. Si vous parlez du royaume, il va falloir l'incarner. Et là, c'est très engageant pour nous. Si moi, je te dis que je défends l'opprimé, il ne faut pas que je m'arrête au discours. Il faut que je le fasse. Et parler du royaume est engageant. Annoncer le royaume, mais allez guérir, ressusciter, la fête. Voilà, faites-le. Waouh. Attends, là, c'est engageant. Et en cela, il y a quelque chose qui ressort de la prédication du royaume. C'est que toutes les valeurs du royaume ne peuvent pas s'incarner sans votre héroïsme. Comme Dieu et ce héros qui vient sauver et qui aide les autres, vous ne pouvez pas incarner ce royaume sans avoir cette approche héroïque. Toutes les valeurs du royaume font appel à notre héroïsme. J'ai parlé du baptême, qui est un exemple, mais on peut aussi parler du mariage. Le mariage, c'est héroïque. On a eu un exemple récemment avec Irina et Farid. Vous vous regardez dans le blanc des yeux et vous vous dites « c'est toi et personne d'autre ». C'est héroïque. C'est beau, c'est magnifique, parce que Dieu promet la fidélité à tout jamais. Et nous, on va représenter ça. Dans un monde d'infidélité, promettre à l'autre, c'est toi et personne d'autre pour la vie, c'est héroïque, non? C'est héroïque ou pas? Bon, répondez pas, parce que ça risque de jaser. Mais le mariage, c'est un mari qui fléchit le genou devant son épouse et qui la serre, et qui donne tout pour elle. C'est ça? Et son épouse qui, en retour, le sert également. Mais c'est super héroïque. Tu donnes tout pour l'autre. Tu n'es pas là pour être servi, tu es là pour servir. C'est super héroïque comme truc. Et c'est le symbole de la fidélité de Dieu qu'on symbolise par le mariage. Ça symbolise l'alliance, le royaume et cette histoire. Et c'est l'amour de Dieu qui a l'inspiration des valeurs, de la valeur du mariage. Ça dépasse l'entendement. Et ça fait appel à l'héroïsme. Ah oui, le mari, il est prêt à mourir pour son épouse, hein, comme Christ est mort pour l'Église. Ah ouais, d'accord, c'est ça l'héroïsme du mariage aussi. Aller jusqu'au bout. Pas de porte de sortie, t'y vas, tu restes fidèle et tu continues. Parce que la cause en vaut la peine. Et c'est le message que je voulais partager ce matin. Croyons dans les valeurs du royaume. Ayons cette vision complète du royaume de Dieu. Souscrivons à 100% dans ces valeurs. Vivons-les, incarnons-les, parce que la cause en vaut la peine, mais ça fait appel à notre héroïsme. N'hésitons pas à procurer la paix. On s'interpose entre le bourreau et la victime. On plaide les causes les plus perdues, les plus impossibles, parce qu'on a là la vision d'un royaume qui est extraordinaire. Et c'est notre histoire, il faut la revendiquer. Dieu est un Dieu de délivrance. Il est venu nous délivrer et il nous dit « Allez, marchez sur mes traces, ce sont des bons préceptes. Faites ce que j'ai fait. » Puis je vais vous donner un coup de main au passage parce que ça risque d'être compliqué. Mais c'est ça qui est extraordinaire. On est fiers de notre royaume, on diffuse ses valeurs. Voilà notre idéal, voilà notre espoir, voilà ce qu'on rêve, ce qu'on espère. Oui, c'est notre Dieu qui a fait tout ça dans l'histoire. Ça m'a tellement inspiré que moi aussi je veux le faire. À ma portée, mais moi aussi je veux le faire. Et vous voyez, l'idée n'est pas tant d'avoir peut-être des techniques pour parler simplement de Dieu, mais de dire s'il en parle simplement, c'est parce que ces valeurs-là, tout le monde les comprend. Tout le monde peut les comprendre. des valeurs qui viennent d'en haut et qui touchent la terre, et qui, quand elles se rencontrent, elles ouvrent des cœurs, et il y a le surnaturel qui intervient, c'est extraordinaire. Alors, est-ce que vous voulez être des héros dans cette histoire? Pas l'héros ultime, hein, mais est-ce que vous voulez faire appel à votre héroïsme pour incarner ce que Dieu nous demande d'être audacieux et de prendre des causes perdues? Est-ce que vous adhérez à cette vision? Est-ce que vous voulez incarner, embrasser complètement cette vision? Est-ce que vous voulez vraiment qu'elle soit en nous et qu'on puisse l'appliquer autour de nous? Quand on va prier pour quelqu'un, quand on va l'écouter, à chaque fois qu'on va tendre la main, on se dit qu'il y a une vision derrière qui est extraordinaire du Dieu d'Israël, du Dieu de la croix. Et rappelons-nous de la sagesse, de la pédagogie d'Israël, des parents aux enfants, de dire « Tu sais, mon fils, ma fille, Dieu est venu nous chercher un jour, il a tenu promesse, et maintenant, nous aussi, on va soutenir les causes les plus perdues, les plus difficiles, mais c'est tout le bien qu'on peut laisser aux autres, et c'est tout ce qu'on doit au monde. » Prendre ces valeurs-là et avoir l'audace, comme Dieu nous dit, mais soyez parfaits comme je suis parfait. Alors c'est audacieux, mais c'est une façon de dire, soyez héroïques, allez-y, allez chercher ces causes, allez les défendre. Et en ce sens, je vous invite à prendre part à cette histoire et à ce bout d'histoire qui en est la fondation, la croix, le sang versé et la délivrance en prenant la scène. Et je vous invite à vous lever. Ouais. Et en prenant ce pain et ce vin, prenez cette histoire avec vous, prenez cet acte héroïque, prenez cette délivrance. Pierre, tu peux, s'il y en a spontanément qui veulent distribuer, prenez cette histoire, prenez ce bout d'histoire. J'aimerais prier. Seigneur, la plus audacieuse façon de nous approprier ton royaume, c'est la scène. Parce que c'est notre délivrance. Parce que tu es vraiment venu pour nous avec ton corps et ton sang. Et tu nous le donnes pour que ça rentre en nous. Et pour que ce soit, pour que ça fasse partie de nous, Seigneur. Et c'est notre histoire, on en est fiers. C'est notre royaume, on en est fiers. C'est toi notre héros. Et à notre portée, avec nos forces, nous aussi on a envie de te ressembler. Et on veut s'associer à la scène, on veut s'associer à ce sacrifice, on veut souscrire à ton royaume, on veut changer les cœurs. Et Seigneur, merci parce que tu réécris l'histoire tous les jours dans les cœurs, et que quand un cœur change, c'est tout le monde qui change. Sois glorifié, Jésus. On veut vraiment prendre cette scène en ayant conscience de cette vision du royaume que tu nous transmets. Transmets-nous le courage et la force de l'incarner. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen.